C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles.
Moi, mes projets, c'est en fait d'attendre qu'on me donne l'autorisation de remonter sur scène.
Bonjour, c'est Maïté sur Fréquence Grand Lac.
Bah Johnny, là aussi, on s'était rencontrés bien avant La Rochelle.
Oui, je me sens cuisinière encore, landaise toujours. Ça, je pense que ça sortira jamais de mes tripes.
J'ai pleinement confiance aussi dans l'avenir de notre ville. Bordeaux la Belle, je te souhaite bon vent.
Vive la radio!
Radio, raconte-moi ton histoire. Une série historique et futuriste proposée par le CETA de Bordeaux. Aujourd'hui, la radio dans le Sud-Ouest, une longue histoire.
Entre l'Aquitaine et la radio, c'est une vieille histoire d'amour dont nous sommes, auditeurs et auditrices, éditeurs et éditrices, journalistes et animateurs ou animatrices, dont nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers de ces pionniers qui, dès le début des années 20, se sont battus pour que les ondes émettent, pour que la parole circule, pour que la musique enchante, pour que les services soient au rendez-vous et afin que l'offre radiophonique soit plurielle. Et comme il y a un honneur à être les héritiers de ces combats, de toutes ces innovations, de cette écriture si particulière qu'est l'écriture radiophonique, nous vous proposons de faire un retour en arrière et de vous raconter les bribes de cette histoire. Car, ne nous trompons pas, la radio, celle de proximité ou thématique, d'information ou de divertissement, bref, celle que nous écoutons au quotidien, cette radio-là n'est pas née subrepticement un jour de 1982 avec le vote d'une loi qui eut l'incommensurable mérite de libéraliser les ondes radiophoniques et de créer par là même un paysage sonore qui nous est devenu si familier. Avant de rentrer dans le détail de cette histoire, de ces aventures, nous avons choisi de revenir sur un événement qui à lui seul résume le génie, l'incandescence, l'extrême pertinence du bon usage de la radio. Car si nos postes que nous tenons allumés dans nos cuisines, nos séjours, nos salles de bain, nos voitures pour nous tenir compagnie, ces postes font parfois l'histoire. En tout cas, ils la racontent au plus près. L'histoire, en voilà une. Elle a lieu le 26 août 1983 en Pays Basque, le long de la vallée de la Nivelle, fleuve côtier qui se jette dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. À la suite de conditions climatiques exceptionnelles, la Nivelle déborde et saccage toutes les communes sur son passage, provoquant des drames humains et des dégâts matériels. Le port de Saint-Jean-de-Luz voit défiler au milieu des chalutiers des voitures, des caravanes, des toiles de tente, des machines agricoles. Le paysage est dantesque. Les radios locales commencent à peine à exister et c'est la première fois qu'elles sont confrontées à la couverture d'un tel événement. Elles vont faire face et du coup, elles vont prendre une leçon de radio. Robert Latsag est journaliste et écrivain, à l'époque reporter, et il raconte aujourd'hui un instant qu'il ne peut oublier.
Je suis arrivé, je me souviens très très bien, en haut d'une espèce de côte. En bas de la descente, il y avait le ruisseau qui était passé d'un débit tout petit à en gros à 1 mètre, 1,50 mètres d'eau. Et dans ce ruisseau, il y avait un autobus. Et ce bus, au fur et à mesure que je m'en sois rapproché, j'ai vu qu'il y avait en fait des gens sur le toit de cet autobus, dont un enfant et une femme. Et le bus bougeait sous le courant, il vacillait un peu. Heureusement, les roues étaient quand même un peu embourbées, ce qui fait que l'autobus tenait encore. Et ils attendaient un hélicoptère qui devait élitreuiller ce couple-là. Et sur le bus, il y avait aussi le chauffeur qui était monté, qui essayait d'aider cette femme et cet enfant. Et ça a duré 5 minutes dans mon souvenir. Et l'hélicoptère, finalement, de la sécurité civile est arrivé, a réussi à élitreuiller les deux personnes. Et peut-être 2 minutes après, alors que ce bus, je le vois encore balancé de gauche à droite, Il a fini par être emporté par le courant, il a basculé dans un pré, et le ruisseau était tellement énorme, tellement fort, qu'il a emporté le bus qui a roulé après, et il est parti dans un flot, on ne le voyait plus. Et j'avais toujours le souvenir de cet enfant et de cette femme qui voyaient sans doute leur dernière heure arriver. Ils se sont dit qu'ils allaient tomber et être emportés par le bus ou à la suite du bus. Et c'est un des premiers reportages que je faisais en direct. Et c'était extraordinaire parce que, évidemment, on n'avait pas les moyens du moment. Et je l'avais fait au téléphone depuis la maison d'à côté. Et j'ai toujours cette image comme dans un écran de voir ces deux personnes qui levaient les bras, qui faisaient des signaux, qui criaient sur ce bus qui finalement a été complètement emporté par le gros courant boueux de ce torrent qui, à la fête au départ, parce que je suis passé combien de fois après, était un tout petit ruisseau qui passait dans une buse sous la route entre Bayonne et Cambeau. Et je me suis dit, on vit un moment particulier, c'est un fait divers, mais c'est un fait de vie, et ce fait de vie, on arrive à le retransmettre à des gens, on leur donne l'image de ce qui se passe en réalité dans leur région, dans leur pays, dans leur coin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me dis, il n'y a que la radio qui permette de retranscrire cette chose qui est à la fois un fait d'actualité, un fait de vie et en même temps un moment d'émotion que les gens, sans doute, de l'autre côté du poste, partageaient. Et je pense qu'ils étaient complètement avide et un peu interloqué qu'on puisse leur faire vivre ce moment unique, puisqu'en gros, ça a duré 5 minutes au total.
Il a suffi d'une séquence de cette importance pour que des radios de proximité, ces radios locales, qu'elles soient musicales ou militantes, d'information et de services, ou déjà pour certaines commerciales, qu'elles couvrent petits ou grands territoires, pour qu'elles se repositionnent, pour qu'elles réévaluent leur ligne éditoriale, à l'aune de missions devenues impérieuses, le service des populations.
C'était de la vie de tous les jours et il fallait absolument intervenir et prendre des initiatives nouvelles, inventer, créer quelque chose de complètement nouveau.
Anne-Marie Chancerelle, journaliste.
Ça a été complètement fondateur parce que on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire parler non seulement des personnalités comme on avait l'habitude de faire, ce qu'on appelait nous les notables aussi, et que faire parler tout le monde, ça c'était notre rôle, d'aller chercher des gens qui étaient vraiment sur le terrain, des témoignages concrets où les gens se retrouvaient eux-mêmes, où ils connaissaient les noms même des personnes. Ça c'était notre vrai rôle de radio locale et je crois qu'on l'a vraiment bien joué à ce moment-là. Ça a été un peu ce qui nous a permis après d'inventer de nouvelles façons de travailler et on s'est rendu compte que les auditeurs appréciaient. On a vraiment inventé une nouvelle radio. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ne font pas parler d'eux et qui sont véritablement, eux, au courant de tout ce qui se passe et qui peuvent être des lanceurs d'alerte en quelque sorte.
Ainsi donc, voilà planter le décor. Ce que nous recevons aujourd'hui fut peaufiné, amélioré il y a aujourd'hui près de 40 ans. Tout cela avait déjà été inventé par les grandes radios nationales. Le talent des locales fut de réapprendre, d'adapter, d'inventer des façons de faire qui serviront au cours des grands événements climatiques qui vont marquer le XXe siècle, comme le furent les grandes tempêtes de 99-2000 et celle de Cynthia. Mais bien avant, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, c'était comment la radio en Aquitaine, car l'Aquitaine était déjà terre de radio. Commençons par Bordeaux.
En Aquitaine, les débuts de la radio sont entre les années 22 et 25.
Jean Charon, universitaire.
Puisqu'on a un poste privé qui démarre pour des essais pendant au moins 2 bonnes années et un autre poste qui est un poste d'État qui diffuse quotidiennement un programme. Ce programme des émissions tournait autour souvent de musique et chaque radio avait un orchestre qui régulièrement diffusait de la musique en direct, le tout agrémenté de quelques bulletins d'information locaux. L'autre radio qui avait démarré quelques mois avant Bordeaux-Lafayette C'est une radio privée qui est installée dans Bordeaux, qui émet en gros une heure par semaine. C'est un marchand d'instruments de musique. Roger Thomaron est passionné par la radio, construit son propre émetteur et habitue les premiers auditeurs bordelais, on les appelait les sans-filistes, à écouter les premiers essais des radios. Et le sans-filiste testait chaque poste émetteur à distance. Et indirectement, la radio a débarré avec des passionnés qui, aussi bien du côté constructeur que du côté auditeur, ont fabriqué les éléments pour pouvoir écouter la radio ou émettre la radio. Donc Roger Thomaron va prendre une décision qui va l'aider à constituer un comité de parrainage. Il regroupe des personnalités de la ville de Bordeaux et les directeurs de la petite Gironde qui vont l'aider financièrement à faire tourner le poste émetteur.
Bref, la radio est déjà une affaire de passionnés, d'amoureux, d'amateurs inconditionnels et d'associations. Mais l'Aquitaine, une fois de plus, va faire figure de pionnière, car outre Bordeaux, en Lot-et-Garonne, grande région agricole et susceptible d'être victime de crues, un poste émetteur est jugé indispensable par les plus hautes notabilités et c'est ainsi que naîtra Radio Agen. Le département des Landes n'est pas en reste. Lui qui vit pour partie de la résine, du bois et des terres chalossaises, il va donner naissance à Radio Mont-de-Marsan. Les femmes et les hommes de Radio Landaise ou Lot-et-Garonnaise d'aujourd'hui sont une descendance de celles et ceux qui, au tout début de la radiodiffusion, osèrent se lancer, malgré les difficultés, dans l'aventure radiophonique. Voici une de ces histoires, celle de Radio Mont-de-Marsan. C'est Jean Charon, historien de la radio, qui continue de nous conter cette histoire.
Les radios privées se sont montées autour des radioclubs. Dans les Landes, c'est un radioclub qui demande la création d'une radio. C'est le radioclub landais qui, lui, a démarré en 1924, à côté de Mont-de-Marsan, à Saint-Avit. Il a parmi ses membres un docteur, maire de Saint-Avit, qui devient l'élément moteur du Radio Club, qui l'ouvre aux personnalités locales. Sur Mont-de-Marsan, il y a en fait deux personnalités, le préfet et Francis Planté, qui est un pianiste mondialement connu. Donc on achète un émetteur et on va installer cet émetteur à Mont-de-Marsan, sur la tour de l'ancienne caserne Lacaze, qui existe toujours. Et on met cet émetteur en marche. Le but de cette radio, c'était fournir tous les jours à Mont-de-Marsan et surtout au département les renseignements météorologiques, des renseignements agricoles, commerciaux, industriels, transmettre des nouvelles, des conférences et des concerts. En janvier 1925, on inaugure Radio Mont-de-Marsan qui émet souvent des programmes musicaux qui coûtent relativement cher, mais qui plaît surtout aux gens qui écoutent pour la première fois la radio. Et on se retrouve autour de Francis Planté, qui interprète avec des amateurs locaux, des soirées de gala. Ce sont des bénévoles qui font tourner la radio. Et donc, autour de Francis Planté, il peut y avoir un dentiste, il peut y avoir un bénévole qui est capable de passer devant le micro, parce que le problème, c'est toujours le micro. Et le docteur Dibos, qui est l'élément moteur du Radio Club, pense qu'on n'utilise pas suffisamment les disques mis à disposition de la radio, mais qui sont reproduits avec d'énormes difficultés et qui sont peu audibles à distance. Donc un adhérent du Radio Club, qui est radioélectricien, a une idée qui va se révéler géniale, de transformer un tourne-disque à ressort en pick-up, c'est-à-dire qu'il va réussir, en plaçant sur le diaphragme acoustique du bras du tourne-disque, un capteur magnétique qui, avec l'aiguille qui oscille dans les sillons du disque, va être capable de capter le son, parce que ce son est transformé en électricité, et donc de l'amplifier et après le diffuser. C'est une invention montoise qu'on perd un peu à la trace parce qu'il faudra attendre 2 années plus tard pour retrouver ces fameux pick-up produits aux États-Unis, produits même en France, qui sont une copie de ce qui a été fait à Mont-de-Marsan 2 ans auparavant. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
La Seconde Guerre mondiale va balayer ce paysage radiophonique naissant. D'abord parce que les radios privées participent à la collaboration, et ensuite parce que l'État va reprendre les rênes de toute la diffusion radiophonique. Le paysage s'est réduit comme peau de chagrin. Seules les radios publiques peuvent éditer, et selon les régions, les radios dites périphériques, c'est ainsi qu'en Aquitaine, on reçoit Radio Monte-Carlo et Radio Andorre, mais point d'Europe 1 ou de RTL. Ce n'est pas pour autant un vrai désert radiophonique. La modulation de fréquence, cette FM que nous chérissons tant, se développe sur les ondes publiques et France Inter est imaginative. Naissent ainsi les radios vacances qui s'installeront sur la côte basque et sur le bassin d'Arcachon. Et puis surtout, va émerger la première radio musicale et urbaine. Françoise Lost fut l'une des premières animatrices de FIB. Elle raconte la naissance et les premiers pas d'une radio toujours vivante.
FIB, comme France Inter Bordeaux, a été créée en 1972, et je me souviens encore du concours que nous avions passé pour notre recrutement. Et après une petite annonce dans le sud-ouest local, on était environ 200 candidates, et on s'est retrouvés l'une après l'autre dans une petite cabine d'enregistrement à la station régionale de FR3 Bordeaux-Aquitaine, à la fois télévision et radio. On passait seul devant un micro, le jury dans un grand studio un peu plus loin était présidé par Robert Escarpit et réunissait de nombreux professionnels de la radio, de la région, dont bien sûr aussi Pierre Caudou et Jean Garetto. On n'avait vu personne avant. Les épreuves se sont enchaînées à l'aveugle, comme dans The Voice, anonyme. Le jury ne devait voir aucune des candidates. L'important, c'était d'abord la voix. Et puis, on a eu plusieurs infos à rédiger, quelques courtes improvisations sur un thème donné, des pièges aussi, avec des énormités qu'il fallait rectifier en direct, en découvrant et en lisant un texte glissé à la dernière minute. Voilà, on testait, je dirais, une certaine culture de base, notre vivacité d'esprit peut-être. Et puis, passé les premières épreuves et les premières sélections, on a toujours seul dans notre cabine répondu à plusieurs questions plus personnelles sur nos goûts culturels. Donc, dans la même journée, le jury a choisi 3 animatrices titulaires et 3 suppléantes. Et en fin d'après-midi, je revois encore Caudou et Garetto, que je ne connaissais pas, arriver pour faire la connaissance des élus, nous rencontrer et voir à quoi ressemblait celle dont ils avaient choisi la voix. Et ça a fait une belle équipe par la suite qui s'entendait très bien. Puis on s'est lancé à l'antenne, alors pas de technicien, un petit boîtier posé sur un bureau avec juste un bouton à tourner. Et la musique était chantée automatiquement pour que notre parole prenne la place. C'était très simple finalement.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquille de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien.
Ce qui était magique, et puis ça l'est toujours, c'était ce programme musical très éclectique, bien travaillé au niveau des enchaînements, fait par plusieurs programmateurs à Paris. Chaque jour, on recevait le conducteur et on intervenait environ tous les quarts d'heure, si mes souvenirs sont bons. Au début, quelques infos concernant la circulation à Bordeaux, les boulevards, les quais, mais beaucoup moins qu'à Paris quand même. Et surtout des informations culturelles, les spectacles, les expositions, quelques infos services pour la vie quotidienne. Il faut dire que la vie culturelle à Bordeaux était très riche et FIB du coup très utile pour le monde culturel bordelais. On choisissait en tout cas un instrumental pour donner nos infos. Il y avait pas mal de chansons françaises aussi. Je pense que Pierre Caudou et Jean Garretto voulaient que la chanson française soit présente aussi sur cette radio musicale, qui était la toute première radio musicale de la bande FM en France. C'est sûr que, qu'être choisi pour animer une nouvelle radio musicale comme FIB Bordeaux quand on a 22 ans à peine, c'est quand même fantastique. Un tout premier job qui m'a donné pour toujours la passion de la radio.
Il va falloir attendre la loi de 1974 qui restructure l'audiovisuel public pour que les premiers espoirs d'un nouveau paysage naissent. L'espoir est une chose, la réalité en est une autre. Faute de sortie légale et sous la pression d'un paysage médiatique qui n'en peut plus être corseté, émergent les premières radios dites pirates. En Aquitaine, elles sont plusieurs, surtout sur la frange côtière. L'une de celles qui va réussir à maintenir ce statut de radio pirate à partir de 1977 et à tenir le choc et les attaques avant la libéralisation des ondes post-mai 81 s'appelle Radio Adour-Navarre. Elle est la création d'un fou de radio, Alexandre de la Cerda.
J'ai voulu créer une radio régionale avec des informations régionales que j'estimais beaucoup manquer dans la région. J'étais allé acheter un émetteur en Italie, j'avais monté un studio dans une Algeco au-dessus d'une colline Mentachouri à Mouguère. Et l'année d'après l'installation de mon émetteur, donc qui ne marchait pas, qui s'était tu, j'ai fait appel, puisque nous sommes dans une région frontalière, à des postes émetteurs espagnols, avec la chaîne de Radio Popular et des émetteurs suffisamment puissants pour qu'on puisse bien les entendre du côté français. L'émetteur était assez puissant, il était situé presque 800 mètres d'altitude, avec une puissance qui était gonflée, et on arrosait tout le sud-ouest, évidemment tout le Pays basque français, pratiquement de Bordeaux jusqu'à Pau. Et j'avais une heure et demie à peu près d'émissions quotidiennes, d'abord par bande, c'est-à-dire que chaque jour il fallait porter une bande, mais très rapidement, au bout de quelques semaines, on a réussi à avoir une ligne téléphonique, et donc nous avions ces émissions, des informations, des interviews régionales. On avait 7, 8, 10 minutes en langue basque et à peu près autant, mais pas tous les jours, en gascon. Je me souviens qu'une des premières interviews que j'avais faites, c'était à Cambeau, et j'étais tombé sur un joueur de pelote. Et ce joueur de pelote avait eu un mouvement de recul quand je lui ai présenté le micro, et il m'a dit « Oh, mais le micro n'est pas un instrument basque ». Alors ça m'avait frappé, et je me suis dit « Eh bien, nous allons faire que le micro devienne un instrument basque ». Et nous avons lancé, à la manière espagnole, des correspondants qu'on appelait par téléphone et qui nous indiquaient l'actualité en Soule, en Basse-Navarre, est-ce qu'il pleuvait à Mauléon ou est-ce qu'il faisait beau à Ailette. Mais il y avait déjà toute une équipe qui faisait, même sur une heure et demie de programme, des émissions culturelles, des émissions littéraires, des émissions musicales. Il y avait les correspondants et puis évidemment, il y avait les sports. Alors, très rapidement, on a essayé à retransmettre en direct, mais plus souvent en différé, des parties de pelote. Et puis, il y avait une partie jeu. La partie jeu, c'était assez extraordinaire parce qu'il y a eu un très, très grand engouement pour ça. Nous avons également diffusé des bertsulari. Un de mes buts était de faire connaître la musique et la culture de ce pays. Et c'est ainsi que j'ai été le premier à faire connaître la musique classique basque.
Ces radios dites pirates, puis libres plus tard, vont être des lieux où l'imagination va faire son trou. Quelque part, ces radios sont des espaces de liberté et préfigurent pour beaucoup les radios locales et de proximité d'aujourd'hui. Olga Irastorza, aujourd'hui spécialiste des relations transfrontalières entre la France et l'Espagne, a commencé sa vie professionnelle dans l'univers de cette radio. Elle raconte son éblouissement et son bonheur d'avoir fait partie de ces pionniers de cette aventure.
Moi, depuis toute petite, j'avais comme ambition de devenir journaliste, et plus particulièrement journaliste radio, faisant partie de ces jeunes qui écoutaient, par exemple, Les routiers sont sympas, des émissions comme ça qui étaient un petit peu charismatiques. Ma première expérience radiophonique a été à Paris, dans une radio qui, à l'époque, s'appelait Radio Show, et je fais ça pendant 18 mois environ. Et dans cet entretemps, j'avais appris qu'à Bayonne, à Radio Adurnava, on cherchait une journaliste. Comme j'étais basque et du Pays basque, je me suis aussi présentée. Et là, je commence ma vie professionnelle de journaliste dans une radio où, en fait, il y avait des sensibilités très différentes, des communautés très différentes. Et de façon assez extraordinaire, je dirais, j'ai eu très vite, comme d'ailleurs mes autres confrères, carte blanche. Dans cette radio, chacun venait avec ce qu'il était. Les Gascons, qui parlaient gascon et qui faisaient le journal en gascon. La communauté portugaise, il y avait des sportifs, il y avait évidemment aussi des abertzalés, donc des nationalistes basques. Il y avait également des écolos qui faisaient partie d'associations. Ces gens venaient avec leurs convictions, avec un comportement citoyen, etc. Et en fait, les tranches de vie, les tranches de ces communautés, de ces personnalités, ajoutées les unes aux autres, faisaient un programme radio de 18 heures par jour. Et c'était des juxtapositions comme ça, de conviction, d'élan, de faconde, de littérature, de poésie et tout ça. Et commencer sa vie professionnelle de journaliste, quand on a rêvé toute sa jeune vie de devenir journaliste, en ayant carte blanche, en confectionnant les journaux d'information, les talk-shows qu'on pouvait avoir, sa liste d'invités, y compris la chronologie des sujets que l'on traitait, l'angle qu'on pouvait prendre, toute cette liberté-là, on n'en avait pas conscience, mais rétrospectivement, c'était juste incroyable. On devenait journaliste en faisant, en empruntant la route. J'ai eu une énorme chance de commencer ma vie professionnelle dans ce cadre-là, en ayant presque une feuille blanche, mais en ayant conscience que malgré la liberté que j'avais, et nous étions quelques-uns à l'avoir, on avait quand même un rôle à tenir, on avait quand même une mission.
Toutes ces radios ont été l'aventure de femmes et d'hommes qui vivaient leurs 20 ans. De leur imagination, de leur combativité, de leur passion sont nées nos radios d'aujourd'hui. Mais pour que notre paysage soit constitué et stabilisé, il va falloir encore du temps. Et c'est ce qui va vous être raconté dans les épisodes qui suivent.
C'était Radio Raconte-moi ton histoire, une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Cet épisode a été préparé par Patrick Pépin et Jean Charon, à la réalisation Christine Digère et la contribution de nos radios locales sans lesquelles rien n'aurait été possible.